Titan Mag, comme Titane.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titane.
Et Dan.
Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé Dominique au micro et de l'ami fidèle
Laurent
à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent. Le Titan Mag profite de ses déplacements pour pousser des portes avec beaucoup de liberté et de curiosité. À chaque fois, le magazine est merveilleusement accueilli. Cette fois-ci, nous étions à Saint-Idesbald, à côté de Coxyde, à la côte belge, entre Ostende et Dunkerque. Et pourquoi Saint-Idesbald ? Pour y trouver le musée Paul Delvaux. Ce peintre a, trouvons-nous, une figure emblématique et une connotation installée dans un bon nombre d'esprits. Alors, qui est ce peintre né en 1897 et décédé en 1984? Nous essayerons d'en savoir plus en interrogeant tour à tour Martine Gauthaud, présidente de la Fondation Paul Delvaux, et Julie Van Deun, conservatrice du musée Paul Delvaux. Martine Gauthaud, comment a été créé ce musée Paul Delvaux et comment fonctionne-t-il? Écoutons sa réponse. En direct de Saint-Idesbald, Coxyde, sur la côte belge, en présence de Julie Van Deun, conservatrice du musée Paul Delvaux, et de Martine Gauthaud, présidente de la Fondation Paul Delvaux, vont nous promener tout au long de la vie du peintre et du musée. Tout d'abord, Martine Gauthaud, bonjour, et puis merci à vous deux bonjour. De nous recevoir. Je sais que, et j'ai vu que le musée est bien occupé en ce moment de vacances. Parlez-nous de votre musée, Paul Delvaux, et comment s'est faite cette installation. Ça ne doit pas être par hasard qu'on se trouve ici, dans cette maison, en ce moment.
Mon mari, qui était le neveu par alliance de Paul Delvaux, a toujours souhaité réaliser un musée pour son oncle. Ce souhait a pris 10 ans pour être réalisé. Et au bout de 10 ans, naturellement, il voyait que son oncle vieillissait et il voulait absolument le faire du vivant de son oncle. Le musée a pris forme à un certain moment. En 82, nous avons eu l'occasion d'acheter la maison dite le Vlierhof, qui était un hôtel-restaurant. Et nous avons transformé ce musée, enfin c'est mon mari qui a transformé le musée, pour la première étape en 1982. Ce musée était petit, il ne comprenait qu'une première salle. La première salle, quand nous entrons, vous avez visité le musée certainement, ne comprenait que cette salle. L'année suivante, nous avons agrandi de 2 salles latérales. Et puis les travaux se sont succédés. En 89, la première salle sous le jardin s'est effectuée. Pour se terminer par la salle qui se trouve maintenant sous le parking en 1997 pour le centenaire de Delvaux. Voilà. Alors, Delvaux, après 10 ans, a accepté de faire que mon mari fasse le musée, son musée, tout en craignant qu'il n'y ait personne qui vienne le visiter. Et donc, ce musée s'est réalisé en 82. Mais avant cela, la fondation avait été créée en 1979.
Cette installation, ce lieu est déjà très, je vais dire, écologique et d'avant-garde quand on s'imagine que... Il n'a pas été construit maintenant, que c'est déjà quelque chose d'existant. On a déjà pensé à ces longues promenades sous terre. On ne voit pas toutes ces longues salles qui sont sous terre. Et je pense qu'ils passent en dessous de la route et qu'ils se retrouvent du côté du parking.
Oui, c'est cela. C'était la 3e étape. Donc la 1ère étape a été sous le jardin déjà. Donc c'était déjà assez innovant, mais qui convenait très bien ce musée, puisque nous n'avions pas de lumière naturelle. Et le musée est en effet complètement sous la lumière artificielle. Et c'était important également de construire une salle qui donnait beaucoup plus de recul par rapport aux œuvres et qui donnait la possibilité de percevoir les œuvres différemment. Donc la dernière salle a été construite en 97. Et effectivement, nous sommes passés sous la route et puis cette salle a été construite sous le parking.
Et il faut dire, ça m'a agréablement étonnée parce que je suis assez sensible au niveau architecture à ce détail. Déjà, il y a des rampes pour les handicapés. Donc on peut facilement visiter tout le musée.
Oui, je pense que c'était nécessaire et dès le départ, nous y avons pensé, bien sûr.
Au niveau subvention, comment vit et de quoi vit, si on peut dire, ce musée, puisque ça provient d'une fondation?
Alors la fondation a été créée en 79, comme je le disais. La fondation, au départ, est une fondation d'utilité publique. Alors le musée n'a aucune subvention de qui que ce soit. Et le musée vit des droits de reproduction, donc des droits d'auteur en général, des entrées également du musée et de certaines expositions que nous faisons à l'extérieur.
En fait, vous travaillez comme un bureau d'études qui doit s'auto-financer.
C'est cela, oui, tout à fait, tout à fait.
Et que s'y passe-t-il dans ce musée? Est-ce uniquement une exposition qui est là, de Delvaux, statique? Changez-vous régulièrement la scénographie, l'accrochage, ou bien est-ce simplement mis là et on n'y touche plus?
Non, bien sûr. Chaque année, nous changeons effectivement une partie du musée. Nous ne pouvons pas changer le musée en entier, mais nous avons une collection qui nous permet de faire un roulement et de pouvoir présenter différents sujets, différents thèmes chaque année. Donc, une partie, disons la moitié au plus, est changée chaque année et la scénographie est complètement revue par des thèmes qui sont différents suivant.
Donc on peut facilement et sans regret venir d'année en année découvrir d'autres toiles,
oui,
d'autres œuvres.
Oui, certainement, vous découvrez chaque année des choses différentes ou qui appartiennent à la collection de la Fondation ou qui appartiennent à des privés éventuellement qui mettent en dépôt leurs œuvres à la Fondation.
Et cette exposition est-elle itinérante?
Oui, bien sûr, nous avons régulièrement des demandes de musées pour des expositions. Et là, la Fondation, donc le musée de Saint-Idesbald, prête régulièrement une partie, naturellement, des œuvres. Lorsque nous avons une exposition, il y a toujours une grande partie des œuvres qui viennent de l'extérieur, de prêteurs privés ou d'autres musées. Et habituellement, nous prêtons, bien sûr, des œuvres de notre musée. Il va de soi que c'est comme cela, oui, régulièrement.
Avez-vous une idée de comment est perçu Paul Delvaux à l'extérieur, dans d'autres pays?
Je pense que Paul Delvaux est connu mondialement. Il reste encore pas mal de choses à montrer de Delvaux, parce que Delvaux est principalement connu par ses tableaux. On oublie parfois que Delvaux est un très grand dessinateur, et ses œuvres, l'œuvre dessinée est vraiment fabuleuse. On s'accorde souvent à essayer de présenter beaucoup de dessins. Il y a pas mal d'œuvres que nous pouvons présenter au milieu, donc des tableaux que nous représentons au milieu de ces œuvres de préparation. Même certains croquis, des œuvres beaucoup plus approfondies que Delvaux fait et qui sont vraiment très intéressantes et souvent méconnues du grand public.
Donc voilà, on n'est jamais rassasié de Delvaux, il faut toujours aller plus en avant. Et pour ça, Martine Gauthaud, nous allons peut-être demander à Julie Van Deun de continuer la promenade autour de Paul Delvaux. Merci,
oui,
Martine.
Je vous en prie, merci aussi.
Julie Van Deun, rappelez-nous qui était Paul Delvaux. Quel était son caractère et surtout les grandes étapes dans sa vie? Et comment peut-on l'identifier, reconnaître ses œuvres puisqu'elle voyage énormément? On peut dire, tiens, ça c'est un Delvaux. Voilà, en vrac, qui est-il?
Mais quand le grand public pense à Paul Delvaux, il pense toujours à ces grands tableaux énigmatiques avec des femmes nues et des gares et des trains. Donc ça, c'est vraiment le stéréotype que les gens ont. Et c'est vrai que ces deux éléments, la femme et les trains, sont des éléments récurrents et omniprésents dans son œuvre, puisque depuis sa première période jusqu'à la fin de sa carrière, il va utiliser ces deux éléments. Alors, qui était Paul Delvaux? Il faut le replacer dans le contexte. Il est né en 1897 et il est décédé en 1994. Il a eu une très très longue carrière. Et pourquoi est-ce que c'est important de le replacer dans son contexte? Parce qu'on va se rendre compte combien ça va affecter l'homme, mais évidemment l'artiste. Et donc Paul Delvaux vient d'une famille bourgeoise, son père était avocat, et Delvaux est le premier fils né, et comme beaucoup d'enfants à l'époque, en tout cas d'héritiers, On attendait d'eux qu'ils suivent la carrière familiale, et donc on attendait de Delvaux qu'il devienne lui-même avocat. Malheureusement, Paul Delvaux est un élève peu assidu, on va dire, plutôt rêveur, qui est souvent assis dans le fond de la classe et qui, au lieu d'écouter ses professeurs, dessine sur le bord de ses cahiers. Et donc les parents vont vite se rendre compte que Delvaux ne sera pas suffisamment assidu pour pouvoir suivre des études de droit. Et on va lui demander, mais que veux-tu faire plus tard? Et voilà que ce jeune enfant s'est mis en tête de devenir artiste peintre. Et quelle idée farfelue, il n'en est absolument pas question. Et là, les parents vont être confrontés à un dilemme, puisque c'est vraiment une chose qui lui tient à cœur. Et ils vont venir en vacances à la mer du Nord déjà, à Zeebruges, où Delvaux va exécuter ses premières aquarelles et il va représenter le port de Zeebruges. Et une circonstance, les fameux hasards de la vie, comme on dit, vont faire que loge, à la même époque, dans le même hôtel, un artiste très connu, Franz Courtens, qui était également nommé le baron Courtens, et qui était un artiste à la cour. Et cet homme a vu le travail de Delvaux et va aller voir les parents, va avoir cette démarche d'aller voir les parents de Delvaux et de leur dire « Mais enfin, votre fils a du talent, il faut absolument l'encourager dans cette voie. » Et les parents vont accepter à partir de ce moment-là qu'ils s'inscrivent à l'Académie des Beaux-Arts en peinture monumentale. Et donc c'est là que va commencer le parcours de Paul Delvaux.
Sait-on comment il a obtenu ce virus? Est-ce qu'on connaît le démarrage? Pourquoi la peinture? On a
Alors,
pu déceler cela?
Je pense que chaque personne naît avec sa propre sensibilité et qu'en effet Delvaux était déjà une personne extrêmement sensible, introverti, un grand rêveur, comme je le disais. Il passait de longues heures de solitude, finalement, à s'imaginer son propre univers. Et donc, je pense que ça, c'est déjà dans le caractère du personnage. Et donc, il hésitait, d'ailleurs, quand il était petit, à être musicien ou artiste peintre. Et c'est cette fameuse rencontre avec Franz Courtens qui a fait qu'on l'a encouragé dans la voie de la peinture. Peut-être que s'il avait rencontré un pianiste, il serait devenu pianiste à la place, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui a fait qu'il avait déjà une fibre artistique, ça c'est certain, un besoin de solitude et de création qui lui était vraiment propre. Et d'ailleurs, il ne considérait pas la peinture comme un travail, comme une obligation. Pour lui, c'était vraiment une vocation, un appel. C'était ce pourquoi il était fait dans la vie. Il a d'ailleurs sacrifié sa famille, entre guillemets, enfin le choix de faire une famille. Il disait, quand on décide d'être artiste peintre, il faut vouer sa vie entière à cette vocation. Et donc Delvaux a suivi cette vocation, et comme beaucoup d'artistes, et là évidemment, je pense chez Delvaux peut-être encore plus que chez certains artistes, par exemple Picasso, on connaît tous la période bleue, la période rose, etc. Il est tellement connu. Mais chez Delvaux, lui aussi, a eu des périodes, différentes périodes artistiques. Et la première, qui paraît logique, finalement, puisque c'est la période où il va apprendre son métier, c'est la période où il va poser ses châssis à l'extérieur et il va copier les paysages qui s'offrent à lui. Et là, donc, c'est une période qu'on appelle la période d'influence impressionniste, la période réaliste d'influence impressionniste. Pourquoi ? Parce que elle représente les paysages qu'il fréquentait. C'est là qu'on se rend compte que Delvaux est né en Wallonie et il rend des visites à sa grand-mère en Wallonie, a vécu toute sa vie à Bruxelles et voyageait déjà en Flandre pour les vacances. Et d'ailleurs, c'est là où il a terminé sa vie, puisque à la fin de sa vie, il est venu prendre sa retraite en Flandre, tout près du musée. Et c'est là d'ailleurs où il est décédé à Furnes et où il est enterré. Thank you.
Sur Couleur FM 97.1, nous venons d'entendre Ibrahim Malouf dans Dopes, de l'album Wind. Cet album convient bien à l'atmosphère de la côte belge, de son vent et des doutes que nous pouvons croiser régulièrement.
Et donc, cette première période, c'est d'ailleurs le démarrage de la scénographie du musée, où on découvre en fait toutes les périodes. On est un musée compréhensif, on essaie de montrer non seulement toutes les périodes artistiques du peintre, mais également d'y montrer pas seulement la peinture connue de Delvaux, mais comme vous disait Martine Gotteau, également, Delvaux était un grand dessinateur. Et donc, nous avons la chance au sein de notre collection d'avoir tous les dessins préparatoires et parfois des petits croquis comme ça, furtivement dessinés sur une bête feuille de papier, qui sont l'essence même d'un tableau qui va devenir majeur. Donc, c'est vraiment une grande richesse au sein de notre collection. Donc de là, après cette première période d'apprentissage, il va se rendre compte que la peinture, c'est ce dont il est appelé. Et il ne veut plus copier maintenant, il souhaite que ce qu'il crée vienne de lui. Il va rentrer dans une période assez difficile pour lui, parce que Delvaux est une personne extrêmement introvertie et extrêmement anxieuse. Et donc il doute, et d'ailleurs jusqu'à la fin il va douter. Et ça paraît peut-être logique finalement qu'un artiste qui se cherche va s'attacher à un mouvement qui force l'artiste à aller au-dedans de soi-même et de chercher ses émotions et de chercher son expression. Donc il va s'attacher au mouvement de l'expressionnisme. Et là, les expressionnistes flamands étaient fort en vogue à l'époque. L'école de Saint-Martin-Latem, Spermeig, De Smet l'ont fortement marqué. Donc il a vraiment une période où clairement il a été influencé. Il va copier, c'est pas vraiment copier, il va tester les différentes techniques, il va peindre un peu à la Permec avec un couteau ou plutôt qu'avec un pinceau. Après, il va s'attaquer à des toiles avec plus de relief, un peu à la Ensor, comme ça. Et donc, il va tâter un peu le terrain. Mais ce qui est intéressant dans cette période-là, alors que les toiles paraissent tellement différentes, c'est qu'il y a déjà cette atmosphère qui se crée, qui se forme progressivement et qui est tout à fait delvalienne, qui est cette atmosphère de silence, de solitude et d'anxiété qui est sous-jacente. Et donc ça, on assiste vraiment au travers de cette deuxième période à la naissance de cette atmosphère qui lui est particulière. Et donc de là, après Delvaux va avoir la révélation du surréalisme, qui est un mouvement qui va permettre à Delvaux de se découvrir et de pouvoir s'exprimer en toute liberté. C'est vraiment ça pour lui. Il n'y a plus aucune barrière, tout. Les expressions lui sont permises et là il va vraiment se lâcher et il va créer son propre univers. Et cet univers, évidemment, Delvaux disait, je veux créer un tableau dans lequel je pourrais vivre. Et on se rend compte finalement que les œuvres de Delvaux, c'est ça. C'est une fenêtre sur son imaginaire. Et quand on a la chance de pouvoir se créer ce monde d'évasion, avec quoi va-t-on créer ? Avec des choses que l'on aime, des souvenirs d'enfance, des personnes qui nous ont fascinés. Et donc on se rend compte, quand on regarde le monde de Paul Delvaux, que finalement ce sont toujours les mêmes éléments qui reviennent pour nous raconter une histoire. Et cette histoire, évidemment, bien qu'elle appartienne à Delvaux, elle nous est propre aussi, parce que ça, c'était la force de la peinture, comme disait Delvaux, c'est que la peinture a un langage universel, peu importe que l'on parle français ou néerlandais ou japonais, peu importe l'âge que l'on a, chaque personne approche un tableau, une œuvre d'art, avec ses propres affinités, son propre vécu, et se raconte sa propre histoire. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement précieux chez Delvaux, et qu'il ne voulait pas violer. Delvaux ne racontait jamais l'histoire d'un tableau. Par contre, ce qu'on peut faire à la Fondation, parce qu'on essaye évidemment de respecter cette volonté de ne pas analyser à outrance l'œuvre de Delvaux, et donc au travers de la scénographie, il y a quelques citations, toujours de Delvaux, qui explique tel ou tel élément, quelle est l'origine de cet élément, pourquoi toujours ces trains, ces femmes nues, cette architecture gréco-romaine. Et donc on donne un petit peu les clés de lecture de l'univers de Delvaux et c'est à chaque personne de s'y promener et de rêver.
Et on peut avoir la clé, par exemple la clé des trains.
Alors voilà, oui, les trains, c'est un élément qui est tout à fait particulier à Delvaux. On découvre ses premières gares en 1920, donc vraiment dans la toute première période. Et là, il faut nous replonger de nouveau en 1920, la bête humaine de Zola, ces machines infernales qui rentraient en gare. Et il y avait une atmosphère tout à fait particulière dans ces gares, cette vapeur qui se dégageait, c'était une atmosphère mystique pratiquement. ces machines avaient une âme, elles étaient vivantes. Et donc pour Delvaux, tout ça, il y avait un grand sens de la poésie qu'il essayait de retranscrire dans ses toiles. Et il faut se rappeler aussi, maintenant on prend le train, l'avion même, comme on prend la voiture, mais à l'époque, le train, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement innovant. C'était l'industrialisation, ça permettait, ça a changé les mœurs des gens, ça permettait le voyage, la découverte. Et donc Delvaux, enfant, a été fortement marqué par cette machine moderne. Et donc c'est étrange parce qu'on voit, malgré les années qui passent, on est en 1960, et Delvaux va toujours utiliser des locomotives à vapeur, bien que le train électrique existe. D'ailleurs, il va les mélanger, parfois ce sera un train électrique, parfois ce sera une machine à vapeur. Pourquoi ? Parce que ces machines à vapeur, de nouveau, avaient une âme pour lui, et donc étaient beaucoup plus poétiques, et s'apprêtaient mieux à la peinture, à sa peinture, à son univers.
Et puis l'autre question que l'on se pose également, vous l'avez dit tout à l'heure, les femmes nues. Bon, on retrouve également les femmes habillées, où on retrouve les beaux chapeaux, beaucoup de dentelles, mais énormément de femmes nues. Et on se pose la question, pourquoi ?
Alors je pense que Delvaux, comme beaucoup d'artistes hommes, avait une fascination vis-à-vis de la femme. Souvent, la femme a été la muse de nombreux artistes. La femme symbolise énormément de choses, pas seulement la sexualité, mais aussi la vie, puisque c'est la femme qui donne la vie. Et donc Delvaux venait d'une famille bourgeoise, le père avocat était souvent au travail, et c'était la mère qui portait un peu la culotte. Et donc la mère de Delvaux était une femme assez autoritaire, qui essayait de protéger son fils du mieux qu'elle le pouvait. Et donc c'est vrai que déjà, Delvaux était marqué par cette mère très protectrice. Il a grandi dans une famille, il n'y avait pas seulement sa mère, mais il y avait aussi ses tantes, la gouvernante. Donc il est déjà petit, il a été entouré par ses femmes. Et puis, comme il était extrêmement introverti, Delvaux avait du mal d'aller vers le sexe opposé. Et donc pour lui, cette femme exerce une fascination, et elle est chez lui un peu un mélange entre Ève et la Vierge Marie. Et donc c'est vrai que souvent ces femmes sont soit vêtues, et alors elles nous apparaissent comme elles étaient dans le temps, avec ces robes et ces chapeaux de 1900. Et souvent elles sont nues, et là elles sont plutôt... Elles ne sont pas dévêtues, elles sont nues, comme vous l'avez dit. Et ce qui est étrange, c'est qu'elles sont toujours en pleine lumière. Delvaux, qui adore dépeindre des paysages de la nuit, avec des ciels étoilés, des lunes, on voit toujours que le corps de la femme est illuminé tel une apparition. Et donc il rend cette femme pratiquement mystique au travers de son œuvre. Et d'ailleurs, il a dit lui-même qu'il avait essayé au travers de son œuvre de rendre hommage à la femme.
Et au niveau femme, justement, est-ce qu'il a un modèle ? Comment ça se passe à ce niveau-là, où des hommes, on voit très très peu d'hommes.
Delvaux, dans les années 60, Delvaux a pu vivre de son art mieux. Il avait des rentrées qui lui permettaient d'avoir des modèles. Il a eu deux modèles, un qui s'appelait Daniel, qui a posé pour lui pendant plus de 20 ans, et une autre qui s'appelait Carole. Alors Daniel, c'était lorsqu'il était à Bruxelles, et Carole, c'était lorsqu'il était ici à Furnes. Donc il avait deux modèles féminins, il a eu d'autres personnes qui ont posé pour lui au cours de sa longue carrière, mais jamais d'hommes. Et donc quand il avait besoin d'un homme, il se dévêtissait et il se peignait devant le miroir. Et donc c'est vrai que souvent les hommes sont assez minces, un peu gringalets comme ça. Et donc la plupart du temps, c'est lui-même qui apparaît dans ses tableaux. Et ce qui finalement rejoint un peu de nouveau cette philosophie, il veut peindre un tableau dans lequel il pourrait vivre, mais justement, il veut prendre part à cet univers. Et donc, ça paraît logique qu'il apparaisse tel un figurant parmi ces autres personnages.
Laisser une trace.
Exactement.
Et si on parlait de Tam, on la voit quelque part, mais peut-être qu'on ne la connaît pas vraiment.
Alors Tam, évidemment, c'est le grand amour de sa vie. C'est une dame qui s'appelait Anne-Marie de Martelard et qu'il a rencontrée en 1927. Et il en tombe éperdument amoureux. Et malheureusement, la famille de Delvaux va s'opposer à cette union. Et d'ailleurs, la mère de Delvaux va demander à ce qu'il arrête de la fréquenter. Et en 1929, c'est l'année de la séparation, on va découvrir dans les carnets de croquis de Delvaux toujours ce même visage, telle une obsession, feuillet après feuillet. Et c'est Tam, d'ailleurs, il écrit Tam d'après nature. Et on voit ce personnage avec les grands yeux en amande noirs, au regard non pas fermé, mais plutôt inaccessible, et qui est perdu dans une certaine tristesse. Et c'est étrange parce qu'on va se rendre compte que après cet événement marquant, vont apparaître chez Delvaux ces femmes toujours inaccessibles et enfermées sur elles-mêmes. Et donc, Delvaux va continuer son petit bonhomme de chemin. Sa maman va décéder en 31, son père en 37. Et des amis à lui vont s'inquiéter un peu du sort de ce jeune peintre qui est célibataire. C'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas très commun d'avoir des hommes indépendants. Et donc, ils vont lui présenter une dame qui était divorcée. Et ils vont avoir un genre de mariage d'arrangement. Et il va rester marié avec Suzanne Purnal pendant 10 ans. Et puis un jour, progressivement, ils vont se rendre compte que ni l'un ni l'autre ne sont satisfaits de cette union, parce que lui va passer le plus clair de son temps dans son atelier. Et un jour, il va venir rendre visite à son ami Georges Grard, qui est sculpteur ici, qui avait une maison de vacances aussi à Saint-Hildesbald. Et donc Delvaux va aller un matin chercher son journal. Et par hasard, il va tomber sur Tam. Et ça va être de nouveau le coup de foudre. Elle l'aura attendu. Elle était, entre guillemets, vieille fille. Et lui était en instance de divorce. Et donc, ils vont se mettre ensemble. Et en 52, ils vont se marier. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas eu d'enfant. Parce qu'elle avait 52 ans. Lui en avait 55 ans. Et donc, au travers de cette vie commune, ils ont quand même la chance, tous les deux, d'avoir vécu très âgés, puisque Tam est décédée en premier. Elle avait 89 ans, elle est décédée en 89. Et Delvaux, donc, l'a suivie 5 ans après, en 94. Et donc, ils ont quand même une belle vie ensemble. C'est très étrange, parce que autant Delvaux l'a dessinée avant, donc dans les années 28-29. Après, quand ils vont se retrouver, il va encore faire un portrait d'elle en 39. Et puis après, il ne va plus du tout la dessiner une fois qu'ils seront mariés. Mais il va réaliser des tableaux pour elle.
Il préserve une intimité à ce moment-là.
C'est ce qu'on peut penser, oui. Et c'est en 49, en 39, je m'excuse. Mais...
Vous avez dit, il y a ensuite des fresques. Est-ce que c'est une étape suivante?
Alors, les fresques, comme Delvaux a une formation de peintre et de peinture murale, Delvaux a réalisé de nombreuses fresques, en Belgique principalement, d'ailleurs je pense uniquement en Belgique, si je me trompe, et dont la plus importante peut-être est au Casino d'Ostende, enfin une des plus importantes est au Casino d'Ostende. Et nous avons d'ailleurs actuellement, vous posiez la question à Martine Gotteau, à savoir si la scénographie changeait au musée. Et en effet, chaque année, nous changeons entre une et trois salles du musée. Et nous avons toujours une exposition thématique qui montre un aperçu plus ou moins méconnu de l'œuvre de Delvaux. Et cette année, donc, cette exposition est consacrée aux dessins préparatoires et à toutes les études préparatoires qui ont servi à cette fresque du Casino d'Ostende.
C'est bien ce genre de dessin, parce qu'on rentre là aussi dans un côté un peu caché du peintre en général.
Alors ça, c'est évidemment la richesse de notre collection. Nous avons plus de 3000 œuvres dans notre collection.
Ah oui, c'est énorme.
Nous avons plus d'un dixième de sa production de peinture. Et donc, au travers de toutes les archives que Delvaux nous a laissées, il nous a également laissé tous ses dessins préparatoires. Et beaucoup n'ont jamais été montrés et dévoilés au public. Et donc, nous sommes toujours actuellement en train de faire des recherches et de découvrir encore des choses. Et donc, chaque année, on essaye de montrer au public une sélection d'œuvres qui n'ont jamais été dévoilées.
C'était un travailleur acharné.
Alors oui, c'était vraiment un travailleur acharné. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi Delvaux n'a peint que 450 tableaux dans toute sa carrière, puisqu'il a peint pendant plus de 60 ans, parce que son premier tableau date de 1920 et son dernier tableau date de 1986. Donc vraiment une très longue période de travail. Et malgré tout ça, il n'a peint que 450 tableaux. Il en a détruit plus d'une cinquantaine d'ailleurs sur ces 450. Donc il en reste 400, environ 400. Et donc, Delvaux ne s'est pas tourné les pouces, au contraire, mais Delvaux avait, pour lui, le dessin était essentiel. Et donc, au-devant de chaque tableau, il devait réaliser de très nombreux croquis. Et ce qui est intéressant chez lui, et que je trouve tout à fait extraordinaire, c'est son message, enfin, le message, un des messages que Delvaux nous transmet, et surtout transmet à cette nouvelle génération, on a un peu... Il faut avoir tout très vite, tout de suite. Et quand les choses ne vont pas, on a un peu tendance à baisser les bras, ou à vouloir baisser les bras. Et chez Delvaux, chez lui, ce qu'il nous dit au travers de tous ses dessins, parce que vous avez vu lors de la visite, il y a des dessins où c'est écrit « mauvais, nul, vide », on se dit « mais enfin, que fait-il ?» Il s'autocritique lui-même, mais là n'est pas l'important. quand on rate quelque chose, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que l'on va faire après. Et donc, chez Delvaux, il disait que même dans un dessin tout à fait raté, si on faisait attention à ce dessin et qu'à force de travail, on retravaillait certains, peut-être certains éléments tout petits, médiocres, voire, on pourrait en faire quelque chose de bien. Et donc, c'est toujours cette démarche de vouloir faire mieux, de vouloir avancer. Et d'ailleurs, Delvaux lui-même disait « la perfection n'existe pas ». La seule chose que l'on peut faire en tant qu'homme et femme, c'est toujours d'essayer de faire de son mieux. Et ça, de nouveau, c'est un message, c'est un des messages de l'œuvre de Paul Delvaux qu'on essaye de transmettre et de retransmettre aux générations nouvelles.
Thank you.
sur Couleur FM 97.1 de l'album Thalassa de Walter Villain. Nous avons entendu au piano une sonate Allegro poco glucoso dans les jardins de Saint-Inelbad. Walter Villain est un merveilleux peintre qui a connu Paul Delvaux. Il fut son élève. Il est également musicien. Il fut disciple de Robert Steyart et donna des cours.
Surtout maintenant, au moment du zapping, c'est très important. Dans les tableaux et l'œuvre de Paul Delvaux, ce qui est étonnant aussi, c'est la façon dont, même dans la nuit, dont il fait vivre même les maisons, la rue, parce qu'il y a des points de lumière. C'est assez fabuleux. Et c'est toute une technique, j'imagine qu'il a bien mis au point au fur et à mesure.
Et encore une fois, je pense que c'est toujours dans cette optique de créer un monde dans lequel il pourrait vivre. Donc pour lui, ce monde doit être habité. Il doit y avoir de la vie dans ce monde. D'ailleurs, il y a un tableau qui s'appelle Pompéi, et il trouvait que Pompéi était un site extraordinaire, mais c'était évidemment une ville morte. Et que pouvait-il faire pour Pompéi? C'est lui rendre la vie. Et comment pouvait-il lui rendre la vie? En y mettant des femmes nues et des portes illuminées. Pourquoi? Parce qu'une maison illuminée, c'est une maison dans laquelle il y a de la vie, les gens y habitent. On peut s'attendre à ce qu'ils ouvrent les fenêtres ou les portes et que les personnages arrivent. C'est également la raison pour laquelle souvent on voit un train au loin, mais juste les lumières. Vient-il d'arriver? Va-t-il arriver? Part-il? On a toujours cette idée de transport qui est omniprésente dans son œuvre. Et de nouveau aussi cette poésie, ces effets de lumière, ces ombres, tout ça crée un univers poétique qui lui était vraiment très particulier et qui était essentiel à sa peinture.
Il aime la vie et malgré cela, on retrouve chez lui, dans les tableaux, c'est une période, vous allez nous le dire aussi, mais des squelettes. Mais des squelettes qui sont en fait, quelque part, très vivants, très, on a l'impression, très bruyants. Donc c'est un peu antinomique, mais ça doit sûrement s'expliquer.
Alors, le squelette est en effet un autre élément qui apparaît dans l'œuvre de Delvaux et qui est très important. Et c'est vrai, comme vous le dites, c'est surprenant parce que ces squelettes sont extrêmement vivants, un peu comme les squelettes d'Ansort. Et ce qui crée le choc chez Delvaux, c'est ce contraste justement entre ces toiles avec ces squelettes qui sont bruyantes et ces tableaux qui sont extrêmement paisibles, silencieux. Il n'y a aucun contact qui se fait entre les êtres humains. Et là, dans ces tableaux, avec ces squelettes, on voit, on les entend ricaner, ils chuchotent. Et c'est là où, on explique, d'ailleurs, dans la scénographie actuelle, on reprend la citation de Delvaux qui dit que, pour lui, le squelette n'est pas la signification de la mort, n'est pas l'illustration de la mort, mais de la vie en essence. Que le squelette est l'architecture du corps humain. C'est ce qui permet à l'homme de vivre, d'avancer, de marcher, et que chose extraordinaire, disait-il, dans le bras d'un squelette, dans son mouvement, on pouvait sentir le mouvement et la force d'un bras d'homme. Et donc ça, il a vraiment masterisé sa représentation du squelette, parce qu'ils sont extrêmement vivants, comme vous le dites.
Squelette et architecture, en fait, il aurait pu très bien être architecte, il a ses perspectives.
Alors l'architecture, pour lui, c'était vraiment quelque chose de... un de ses points forts. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vous disais qu'il est venu d'une famille bourgeoise. Quand Delvaux avait décidé d'être artiste peintre, ses parents ont dit, mais enfin, il n'en est pas question, c'est tout à fait farfelu. Mais comme ils lui ont consenti qu'il était doué en dessin, on l'avait inscrit à l'école d'architecture. Mais il ne faut pas seulement savoir dessiner pour être architecte, c'est bien de s'y connaître en mathématiques. Et là, malheureusement, ses petits cahiers et ses soldats sur le bord de ses cahiers n'ont pas pu l'aider. Et il a raté son examen de mathématiques. Et là, c'était vraiment le drame familial qui s'est bien terminé, puisqu'il y a eu cette fameuse rencontre avec Franz Kurtens. Mais donc, il a eu pendant un an un écolage d'architecture et il en a gardé quelque chose. On le voit très bien, son travail de perspective est extraordinaire, l'intérêt qu'il porte aux éléments architecturaux, que ce soit l'architecture gréco-romaine ou que ce soit les perspectives dans lesquelles il plonge ses scénographies, tout ça est vraiment extrêmement travaillé.
Est-ce que tout ce travail a eu un impact, a encore un impact maintenant dans le milieu de la peinture?
Alors Delvaux, oui, a été reconnu par de nombreux artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui lui ont rendu hommage au travers de leurs propres œuvres. Et c'est vrai que Delvaux, évidemment, a cette particularité. On ne sait pas très bien où le classer. On a une tendance à vouloir, c'est pas seulement les historiens d'art, mais je pense que c'est quelque chose de très particulier à notre société actuelle. Il faut classer les choses, classer les gens. Et donc Delvaux, où va-t-on le classer? Donc il est systématiquement classé avec les surréalistes. Mais là où le bal blesse, c'est que Delvaux lui-même ne se considérait pas comme surréaliste. Alors du coup, on ne sait pas très très bien. Il y a des historiens d'art qui défendent cette hypothèse qu'il est surréaliste, d'autres qui le nient et qui vont plutôt dans le sens de Delvaux. Et donc Delvaux flotte un peu au milieu des mouvements et on se rend compte que Delvaux a voulu vraiment suivre son propre chemin et qu'il ne s'est pas finalement intéressé ou n'a pas porté fort attention à ce qui était dit autour, aux faits autour de lui et qu'il a simplement et humblement essayé de suivre son propre chemin. Et je pense que ça a été un message et une force qu'il a donné, qu'il a transmis à beaucoup d'artistes pour qui, eux, peut-être aussi, manquaient de confiance en eux, mais pour se dire, voilà, il faut continuer, et peu importe le résultat ou ce que les gens disent, il faut continuer, persévérer. Et donc, je pense qu'en ça, Delvaux a influencé beaucoup d'artistes.
Il a persévéré presque jusqu'au bout de sa vie. Il a, malgré sa perte de vue qui s'en allait au fur et à mesure, il a peint presque jusqu'au bout.
Alors comme vous le dites, il a vraiment persévéré, mais jusqu'à la fin, puisque finalement la vie l'a un peu apaisé. On découvre d'ailleurs une peinture beaucoup plus sereine, peut-être plus poétique, moins énigmatique. Une autre phase de sa vie, donc il y a plusieurs phases aussi dans sa peinture. Mais donc jusqu'à la fin, alors que finalement donc, il est plus en paix avec lui-même, voilà que c'est son corps qui va le lâcher. Et chose tragique pour quiconque, mais peut-être encore plus pour un artiste peintre, il va perdre la vue. Et donc, finalement, et là on se rend compte que le personnage, aussi bien l'homme que le peintre, était un personnage extraordinaire, un grand philosophe, il va encore garder cette philosophie d'esprit positive et il va se dire, mais c'est vrai que je suis triste de ne plus pouvoir voir mes œuvres, mais il y a encore tellement de belles choses à faire dans la vie, comme boire un bon verre de vin, par exemple. Il nous dit ça, avec beaucoup d'humour en plus. Et donc, voilà que son corps le lâche, et donc il ne va plus réussir à travailler la technique de l'huile, parce que là, c'est beaucoup trop contraignant. Mais ce n'est pas parce qu'il ne peut plus peindre qu'il n'a plus envie de créer. Et donc, il va prendre de grandes feuilles de papier, et il va retourner à ses aquarelles et encres de Chine, et il va réaliser ce que l'on appelle des dessins de mémoire. Pourquoi ? Parce que ce sont des dessins qui ont été réalisés non pas avec le sens de la vue, mais avec le souvenir de son bras qui a travaillé pendant plus de 60 ans. Et c'est ce qui explique que ces dessins, on va y découvrir deux seins, deux traits de visage, des répétitions, des juxtapositions. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait plus très bien où il est. Et donc c'est vrai que ces dessins qui sont uniques et qui n'ont jamais vraiment été exposés au grand public sont des dessins qu'il faut approcher avec peut-être une plus grande ouverture d'esprit. Et il ne faut pas vouloir toujours comparer telle et telle période ou telle œuvre avec sa période de maturité, etc. Et que là, il faut vraiment se rendre compte que c'est un autre moment de sa vie et donc c'est une autre approche qui est plutôt une approche de la peinture qui devient une peinture mystique. Et là, on est plutôt face à une œuvre qui ressemble ou qui est plus semblable à du Chagall ou au Dylan Redon et qui sont vraiment des apparitions. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus, oui, spirituel. C'est une œuvre plutôt spirituelle, je dirais.
Et en même temps, très, très émouvant. Sans savoir, j'ai vu donc ces œuvres avant que vous nous expliquiez qu'il avait perdu la vue. Et déjà, on est accroché par ses peintures, par son travail.
Alors évidemment, ça dépend des affinités de chacun, aussi. De tout un chacun. Et c'est vrai que moi, j'essaie de rester objective dans mes visites, mais je suis tellement emportée par cette peinture que parfois, j'ai peur un peu d'imposer mon regard sur le regard des autres. Certaines personnes sont choquées que l'on montre ces œuvres parce qu'on a eu la réflexion d'ailleurs d'une journaliste belge qui nous a dit « À la Fondation Paul Delvaux, nous montrons la décadence d'un artiste. » Et là, je trouve que malheureusement cette personne n'a pas compris grand-chose, parce que au contraire, c'est avec beaucoup de fierté que nous montrons cette œuvre, et parce que nous voulons rester vrais et montrer la force qu'a eu Delvaux. À 90 ans, vous avez vu cette énorme toile qui fait pratiquement 1,50 m sur 2 m, qui date de 85, dont Delvaux a 88 ans, que cet homme ait encore l'audace, le courage d'affronter une toile blanche et de commencer un tel travail, c'est extraordinaire. Et donc, nous, nous devons de passer ce message à tout le monde, finalement, comme nous nous devons de montrer ces dessins ratés, mauvais, enfin, qu'ils considéraient ratés, mauvais. Parce que ça, c'est la véritable œuvre de Paul Delvaux, et pas tel ou tel tableau que l'on considère être la masterpiece et qui se vend des milliards sur le marché de l'art. Ici, c'est une toute autre démarche que l'on veut, plus humaine, qui correspond plus à ce qu'était Delvaux, et en tant qu'être humain, et en tant qu'artiste. Parce que chez Delvaux, on se rend vraiment compte que l'un et l'autre ne pouvaient pas exister l'un sans l'autre. Et donc ça, c'est vraiment très important.
Dans tout ce travail que vous entreprenez, vous avez toujours des projets. Ça, je l'ai bien compris avec Martine Gauthaud. Et quels sont vos projets plus ou moins proches, disons, jusqu'à l'année prochaine, les vacances prochaines, si l'on veut pousser la porte de votre musée?
Alors, l'année prochaine, parce que justement, Martine Gauthaud vous disait qu'on ne peut pas changer tout le musée. C'est vrai, nous sommes une très petite équipe, mais l'année prochaine, nous relevons le défi. Et nous allons changer l'entièreté du musée, parce que nous allons montrer la première rétrospective de l'œuvre gravée dans son entièreté. Et à cette occasion, nous espérons, on fait tout pour sortir le catalogue raisonné de l'œuvre gravée. Et donc là aussi, c'est un travail extraordinaire que Delvaux a effectué. Et nous avons la chance d'avoir tous les travaux préparatoires, toutes les épreuves d'essai où Delvaux rate-bas, réessaye, réimprime des mises en couleur. Et donc, de nouveau, nous allons dévoiler tout ce que généralement on ne montre pas.
En même temps, ce sont des leçons. C'est une leçon d'où on part et où l'on va.
Mais alors, la gravure est une technique qui souvent est sous-estimée, parce que comme il y en a des multiples, ça ne vaut pas grand-chose. Et je pense que là, c'est dommage, parce que la gravure est une chose extraordinaire. La gravure a permis la diffusion de l'œuvre. Ça permet à pratiquement tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais à beaucoup plus de personnes en tout cas, de pouvoir s'offrir un travail de Paul Delvaux, un original. Et donc, ça va permettre une diffusion, et ça va permettre également à Delvaux de travailler ou de s'essayer à différentes techniques, parce que la technique de la gravure est extrêmement riche. Il y a énormément de différentes techniques. La pointe sèche, l'eau forte, l'estampe, le vernis mou, la lithographie. Et donc tout ça, Delvaux va s'essayer et on va se rendre compte. En fait, c'est seulement, on espère en tout cas, au travers de cette exposition, que les gens vont se rendre compte de tout le travail de nouveau qu'il y a au-devant d'une gravure pour arriver à un travail, à un produit, si on peut dire, fini, en tout cas, une épreuve dont l'artiste sera satisfait et qui fera, elle, l'objet d'un tirage. Et donc tout ça, on va essayer de le mettre en avant et de permettre au public de le découvrir.
Et de s'enrichir grâce au travail de Paul Delvaux. Donc, comment vous retrouver sur Internet, suivre vos événements, avoir vos jours d'ouverture, etc.
Alors, comme nous sommes une très petite équipe, je dois l'avouer, nous avons un site Internet qui est un petit peu un dinosaure, mais qui est en cours de rénovation. Et donc, que les gens soient patients, continue, persiste, hein, comme Delvaux. Le site internet, donc, c'est www.delvauxmuseum, en anglais, museum.com. Il est encore actuel, mais il est très difficile d'accès. Mais bientôt, quand les personnes feront donc ce même site internet, ils tomberont sur le nouveau site internet. Et là, il y aura toutes les activités qui seront mises à jour, toutes les informations nécessaires. Il y aura des œuvres qu'on pourra découvrir et...
Non, mais c'est super. Merci beaucoup, Julie Van Deun et Martine Gauthaud, pour ce tour d'horizon, et puis aussi bien architectural, dont je suis sûre Paul Delvaux était très fier, finalement, puisque il était influencé et il a influencé l'architecture. À vous suivre par Internet, par le site. Merci beaucoup de nous avoir accueillis.
Mais merci à vous.
Merci.
Et au plaisir de vous revoir.
Et peut-être nous retrouver, qui sait, du côté de Lyon ou quelque part en
France. C'est une très bonne idée. Nous aimerions avoir une exposition d'Elvaux, une monographie en tout cas à Lyon. Ce serait vraiment extraordinaire.
Parce que je pense qu'on connaît pas... Je ne veux peut-être pas dire peu, mais mal d'Elvaux. Avec les critiques que l'on entend autour de nous, on se rend compte qu'on le sous-estime, je pense.
Je pense qu'on a vraiment une idée stéréotypée de d'Elvaux et qu'on ne se rend pas compte de la richesse de son travail, en effet.
Donc, à creuser.
À creuser.
Merci Julie.
Au revoir.
Au revoir.
La noche tibia y silenciosa, desperté sobresaltada, no me pude resistir. Una fuerza casi misteriosa, como una llamarada, me empujó hacia el porvenir. Algo que venía del pasado y eran cálidos llamados, se metió en mi corazón. Un bandoneón con una sonrisa alucinada fui volando transportada para cumplir la misión. Dioses del candombe, tres violines acompañan mi cruzada y derraman emoción. Oigo la nostalgia que golpea cada vez con otra idea mi varita de cristal. Soy un hada sentimental. La milonga del arrabal se escapó hacia la ciudad. Yo la vi cruzando el mar, buscando la eternidad. Por el mundo, explorando en lo profundo de un antiguo callejón. Y surge el eco de esta canción. La milonga del arrabal se escapó hacia la ciudad. Yo la vi cruzando el mar, buscando la eternidad. La milonga del arrabal se escapó hacia la ciudad. Yo la vi cruzando el mar, buscando la eternidad.
Toujours sur Couleur FM 97.1. Et pour finir, nous avons entendu l'album Plaza Francia, A New Tango Songbook. Nous avons retrouvé Catherine Ringer dans La Mission. Vous la reconnaissiez ?
Merci au musée Paul Delvaux de nous avoir donné un regard pointu sur cet homme habité par la peinture. Merci à toi, Dan. Merci, Laurent. À très bientôt, à vous tous. Au revoir.
Merci, Tita. Bye.